Dieu vous bénisse. Vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et merveilleux Sauveur, Jésus-Christ. Chana, ça a été. Ouais. Tu te sens pas un peu plus vieille, non? Nia t'a dit? Elle t'a rien dit? Ah, Nia. Ah, d'accord. On va arranger ça. Hein. Bien. On a un an de plus. Que Dieu soit loué. J'avais lu concernant frère Corneille. Vous pouvez faire un petit mot gentil, ce serait bien, parce qu'il se sent vraiment seul. Il se sent tout seul. Bon, il y a la caisse, ça va derrière. J'ai juste un mot à dire sur la caisse, je le redirai encore dimanche. Normalement, l'assemblée n'a rien à voir avec la caisse. Donc, nous ne savons pas, tant qu'assemblée, ce qu'il y a dedans. La personne qui va le savoir, c'est la personne qui recevra. Non, si le frère, au moment d'ouvrir, il compte, le frère le saura aussi. On ne sait pas. C'est l'argent de la personne pour qui on fait la collecte. La caisse, c'est une solution moins humiliante que ce qui se faisait souvent au temple. Qu'est-ce qu'on faisait? On mettait la personne devant la porte et les gens passaient de l'argent. S'il y a un côté discrétion et que on t'a lui et vous pouvez avoir confiance en la personne qui a la clé. Moi, je ne sais pas où se trouve la clé. Je ne sais même, j'ai jamais ouvert cette caisse-là. Donc, c'est absolument rien. Les administrateurs non plus. Ça va? Et c'est déjà arrivé qu'on pose la question aux bénéficiaires. Et combien, par exemple, s'il dit j'ai eu 100 euros, il dit c'est pas possible, moi j'avais mis 500 euros. Ça, c'est entre la personne qui prétend avoir mis 500 euros et Dieu. C'est entre cette personne-là et Dieu. Parce que si on lui a donné 100 euros, c'est ce qui se trouvait dans la caisse. Ça va? Je le répéterai encore. Ce qu'il faudra. Bien, nous allons continuer notre sujet mercredi. Nous n'avons pas terminé. Je ne savais pas que ça allait prendre du temps. Et nous ne le terminerons pas aujourd'hui non. Nous allons prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce soir pour la grâce que tu nous as faite de nous retrouver ici en ce lieu. D'autres bien-aimés auraient bien voulu être parmi nous, mais ils sont cloués dans leur lit. Tout simplement parce que l'homme qui peut leur venir en aide, le médecin ou qu'un d'autre, l'homme atteint souvent ses limites. Et ils font ce qu'ils peuvent, mais plus loin, cela ne leur est pas possible. Mais nous savons que toi, tu es illimité. Tu n'as pas de limite. C'est pourquoi nous mettons les cas devant toi, que tu te souviennes d'eux, que tu les bénisses, que tu les guérisses, que tu les délivres. Oh, que tu leur parles, que tu parles à cette infirmité qui les cloue, ou aux douleurs qui les clouent, que sais-je, que tu parles à cela et ça t'obéira certainement, comme le centenier avait dit, et tu prononces un mot, le serviteur sera guéri. Maintenant, nous nous soumettons à ta volonté soit faite, en tout point, et tu nous parles ce soir, que tu nous inspires aussi pendant que ta parole est apportée. D'autres sont en voyage. Garde-les là où ils sont. Et nous pensons également à notre fille et sœur qui est rentrée aujourd'hui au Congo. Que tu bénisses ce voyage. Que tu la gardes sur le chemin. Tu as béni l'aller, le séjour, tu bénis son retour jusqu'au bout. Et pour tous les autres, là où ils sont, sois avec eux. Sois aussi également avec nous. Ne nous abandonne pas. Nous avons toujours besoin de nous réunir autour de ta parole, car c'est là que tu réponds. Tes bénédictions. Nous aimons tes bénédictions et nous ouvrons grandement nos cœurs pour les recevoir. Pour nos péchés qui sont nombreux, te demandons de bien vouloir nous pardonner. Nous te demandons de bien vouloir nous éloigner de l'iniquité, ces choses que nous savons que nous ne pouvons pas faire, que nous ne les fassions pas. Ce que nous devons faire, que nous le fassions. Tout cela pour l'honneur de ton saint nom que tu nous as donné. Veuille être au milieu de nous ce soir, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons lire, revenir sur le passage de mercredi dans Matthieu chapitre 7. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et je ne les mets pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. C'est le Seigneur qui annonce cette terrible météo, qui annonce une tempête, et il l'annonce à ceux qui entendent ses paroles. C'est à ceux-là. Les autres qui n'entendent pas ne sont pas concernés dans ces quatre versets que nous venons de lire. Ceux qui refusent d'écouter ou ceux qui ne l'ont jamais entendu, ce n'est pas à ceux-là que cela est adressé. C'est adressé à ceux qui entendent. Verset 24, quiconque entend ces paroles que je dis. Verset 26, quiconque entend ces paroles que je dis. Ça va? Et l'effet de ces paroles est différent selon que le quiconque en question qui les entend les met en pratique ou non. C'est là la différence. La différence, elle s'observe sur la fondation. Soit la maison est fondée sur le roc, soit la maison est fondée sur le sable. C'est là la différence. La différence vient du fait que celui qui la met en pratique, qui met en pratique ce qu'il entend, déjà entendre c'est bien. Et quand on entend, on sait, qu'est-ce qui se passe? La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Donc ce sont des personnes qui ont la foi. Ceux à qui c'est adressé ici. Parce que la parole de Dieu ne peut pas mentir. Et on observe, pour ceux qui ont la foi, qui ont cru, qui Dieu a fait don de la foi, on observe que leurs combats sont les mêmes. Personne ne peut se plaindre, ayant la foi, se plaindre disant que ses combats sont plus durs que ceux du voisin, du frère qui est à côté. Ce sont des combats semblables que ils doivent, ou par où nous devons tous passer. C'est la même pluie, la pluie est tombée, ce sont les mêmes torrents qui se sont abattus, ce sont les mêmes vents qui ont soufflé. Maintenant, nous nous souvenons de cette parole du Seigneur adressée à Pierre dans Luc 23. Il dit à Pierre, « Satan, on vous a réclamé afin de vous secouer comme on secoue, afin de vous cribler comme on crible le froment. » Et le Seigneur dit, « J'ai prié pour vous. Pourquoi ? Pour que votre foi ne défaille pas. » Donc, la foi peut défaillir. On se comprend ? Hein? C'est ce que dit le Seigneur. C'est important. Luc 23, n'est-ce pas ? C'est 22. Verset 31, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Et Simon n'était pas n'importe qui, c'était une colonne. Ça va ? La foi d'une colonne peut défaillir. N'eût été la prière du Seigneur, la foi de Pierre devant les combats, devant le crible qui lui était destiné, Jésus ne dit pas « J'ai empêché Satan de vous cribler ». Il dit « Mais j'ai prié pour vous pour que la foi ne défaille pas ». Et comme ici dans Matthieu 7, il nous dit ceci, « Les vents sont venus, les torrents, et ainsi de suite, nous constatons, ils n'arrêtent pas les torrents, ils n'arrêtent pas les pluies, ils n'arrêtent pas les combats, ils n'arrêtent pas la tempête. Ils permettent à la tempête de venir. C'est pourquoi mercredi nous disions, ça constitue un test de savoir sur quoi vous avez bâti votre maison, sur quoi vous avez bâti votre assemblée. Amen. Votre assemblée est-elle bâtie sur le roc ou votre assemblée est-elle bâtie sur du sable ? Lorsque les combats vont s'abattre sur l'assemblée, Est-ce que l'assemblée va encore tenir ou là où l'assemblée va se disperser? Ou la maison va-t-elle exploser? Parce que quand Dieu parle, quand la Bible nous parle de la maison, elle ne nous parle pas de l'immeuble. La maison, ce sont les gens. Hein? La maison d'Aaron, la maison de Moïse, n'est-ce pas? Et ainsi de suite, il ne s'agissait pas des immeubles dans lesquels ils habitaient, mais il s'agissait du papa, de la maman, des enfants. Et une maison peut justement éclater si la famille est bâtie sur du roc, sur du sable. Donc, et en fait, comme on a dit, les tempêtes sont exactement les mêmes pour les deux groupes. Le groupe de ceux qui mettent en pratique et le groupe de ceux qui ne mettent pas en pratique. Pierre dit ceci dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre 5. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. N'en gardez pas quelques-uns pour vous, vous n'y arriverez pas, mais tous vos soucis, déchargez-vous-en sur lui. Lui, il est capable de pouvoir prendre ça en charge. Car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre. Soyez pas extravagant. Veillez. Restez pas toujours endormi. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Parler à quelqu'un tout à l'heure, disant qu'il était en déprime. Il dit, je sors un peu, je suis déprimé. Je lui dis, justement, si tu es déprimé, rentre chez toi, rentre à la maison. Parce qu'en étant déprimé, tu es justement une proie facile. Une proie très facile pour le diable, pour les prédateurs. Vous allez faire une rencontre. Le diable, il ne va pas venir avec des cornes. Il va venir avec des paroles mielleuses, il va venir en ange de lumière, il va venir, vous verrez, c'est vraiment la personne idéale pour pouvoir vous remonter le moral. Mais dès le moment où vous avez entendu la parole de Dieu et que Dieu vous a fait don de la foi, vous avez la foi, c'est une déclaration de guerre contre les démons. Et si vous êtes quelqu'un, un homme, une femme de foi, et que vous marchez dans la rue, attendez-vous à des combats. Non seulement dans la rue, chez vous. Non seulement chez vous, à l'assemblée. Attendez-vous à des combats. Les combats, ils seront toujours là. Et Pierre nous dit, dans 1 Pierre 5, verset 8, donc maintenant, soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Il ne faut pas que votre foi soit lâche. Il faut qu'elle soit ferme, sachant que les mêmes souffrances, hein, les mêmes tempêtes, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ça va? Alors, lorsque ces tempêtes arrivent, lorsque ces pluies tombent, lorsque ces torrents viennent, il y a deux groupes qui se dégagent. Il y a les uns qui finissent par faire naufrage. Naufrage par rapport à la foi. 1 Timothée 1. Vous savez, quand les combats de la vie sont tellement nombreux, quand les tempêtes soufflent tellement, Si votre foi n'est pas ferme, vous lâchez. Verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Amen. Nous sommes en plein combat. Et quand tu combats le bon combat, garde la foi. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre. Ils ont tellement perdu la foi qu'ils ont commencé à blasphémer. Il dit, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Ceux-là, ce sont ceux qui ont bâti leur maison sur du sable. Et c'est justement dans les plus grandes souffrances, lorsque les gens pleurent ou se lamentent ou disent les paroles qui sortent de leur bouche, ceux qui sont sur le sable, ils blasphèment en pleurant. Ils sortent des paroles blasphématrices. Par contre, des gens comme Job en pleine souffrance arrivent encore à dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Sa femme lui dit « Oui, mais oh, tu continues encore à bénir Dieu, à bénir l'Éternel, maudis-le !» Oui, tu parles comme une femme insensée. Et c'est exactement ce que Jésus dit. Celui qui bâtit sur le sable est une personne, est comme une personne insensée. Les autres, ceux qui mettent la parole en pratique, qui ont bâti leur maison sur le roc, ceux-là, les combats vont arriver, toutes sortes de choses vont arriver, vont leur arriver. À la fin du combat, ils vont vous dire ceci, 1 Timothée 4, ça c'est le cas de Paul. Dans 2 Timothée 4, c'est ça. Verset 7, d'abord, il dit ceci à Timothée, verset 5. « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Ce n'est pas parce que tu souffres que tu dois laisser tomber ton ministère. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu es dans la défaite, non. Remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et bâtir sa maison sur le roc, nous avons dit, le roc, c'est la révélation de qui est Jésus-Christ, Matthieu 16. Sur le roc, c'est la révélation de qui est Jésus-Christ. Matthieu 16. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est une église solide, bâtie sur le roc de qui est Jésus-Christ. Quand quelqu'un est flottant, tout vent de doctrine, c'est quelqu'un qui n'a pas la révélation. La révélation de qui il adore. Il vient juste, il adore parce que les autres adorent, il accompagne les autres, mais moi je n'accompagne personne, je suis venu ce soir pour l'adorer. Et Jésus est formel, il dit les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre son Église. Il en est sûr, il en est certain. Il n'y a aucun combat qui peut venir me séparer de lui. Il n'y a aucun combat qui peut venir me le faire renier. Mais nous savons que Pierre l'a renié par après, après avoir eu cette révélation. Pourquoi? Parce qu'il n'avait qu'une facette de la révélation de Christ. Christ a plusieurs facettes. C'est pour cela qu'on ne sera pas terminé ce soir. Parce qu'il a plusieurs facettes. S'il fallait énumérer toutes les autres facettes, et nous aurions pu voir un peu ceux qui ont écrit les évangiles, les facettes qu'ils ont, chacun a écrit sur Jésus selon ce qui lui a été donné de voir. Matthieu, Marc, hein? Mais il y en a un, il y a le lion, nous savons ça, non? Il y a le bœuf, hein? il y a l'homme, et il y a l'aigle. Merci. Amen. Chacun a vu, et ils ont quatre faces. Pour bien connaître Jésus-Christ, il faut le regarder à 360 degrés. Mais pour regarder à 360 degrés, il n'y a que Dieu qui peut vous permettre cela. Nous avons parlé de Job mercredi, et justement, avant de passer à Job, nous venons de lire ici que sur ce roc de révélation, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Si vous n'avez pas cette révélation, vous serez flottant à tout vent de doctrine. Lorsqu'un combat arrivera, et ça, malheureusement, nous le constatons parfois. Un combat arrive, Dieu frappe, enfin, Dieu permet que les torrents s'abattent. Et puis, finalement, je crois que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Finalement, c'est la troisième personne en Dieu. Et vous doutez même sur votre baptême. Le baptême, ça doit être au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors que Pierre, ayant eu la révélation, quand il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu vous a fait voir cela, vous avez voulu ce baptême-là. Vous pouvez rencontrer un bishop. Mercredi, je suis sorti, j'ai rencontré un monsieur d'origine maghrébine, juste ici dehors, il m'a demandé, c'est votre église là? Moi, je lui dis oui, monsieur. Il me demande, est-ce que votre salle n'est pas à vendre? Je lui dis non, monsieur. Il dit, je vous demande ça parce qu'il y a des frères à vous, chrétiens, lui, il est musulman, mais il est agent immobilier, qui cherche une salle. Moi, je dis oui. Ça nous est arrivé aussi de chercher une salle. Et Dieu nous en a donné une. Amen. Notre salle n'est pas à vendre. Mais comme Fabrice m'avait montré une fois une salle pour me proposer, disant, Papa François, est-ce qu'on ne peut pas envisager de prendre une plus grande salle? Il m'avait montré, moi j'ai dit, attendez, je connais quelqu'un ici qui, sa voiture était encore là. J'ai dit, ah, mais il est encore là, je vais le chercher. Je l'ai appelé sur le côté et le monsieur est entré, je dis, asseyez-vous, il s'est assis. Et puis, comme il parlait un peu fort, les autres étaient en train de répéter, je dis, allons dehors, parti dehors. Fabrice, est-ce que tu as encore la salle là que tu m'avais proposée? Fabrice regarde sur son téléphone. Il regarde, il ne la trouvait pas. Il dit, mais malheureusement, je ne la trouve pas. Bon, donnez-moi votre numéro. Si jamais il la retrouve, je vous enverrai la salle. Mais notre salle, elle n'est pas à vendre. Ah, gloire à Dieu. C'est vrai, elle ne paye pas des mines, mais c'est notre salle. Amen. Nous sommes à l'aise ici. Nous aimons cette salle. D'autant plus que nous savons comment Dieu nous a donné cette salle. Amen. Elle n'est pas à vendre. Amen. Bon, ce monsieur est parti. Ben, j'ai son numéro de téléphone. Mais ce qu'il y a, il m'a posé beaucoup de questions. Il m'a parlé du pape. Moi, j'ai dit, le pape, tout ce que je sais, c'est qu'il a le même prénom que moi. Mais nous ne nous occupons pas du pape. Alors, il a commencé à me dire de ce que le pape fait de mal depuis Jean-Paul II. Ça ne nous regarde pas. Nous venons là, nous, pour adorer Jésus-Christ. Ce que le pape fait ou dit, c'est son affaire. Gloire à Dieu. Amen. Bon, nous avons parlé de Job mercredi. Ah oui, le titre, le roc, révélation de qui est Jésus-Christ. Nous avons parlé de Job mercredi. Un grand vent avait frappé les quatre coins de sa maison en emportant tous ses enfants. N'est-ce pas ? Job, chapitre 1er. Verset 18. De 13 à 18, vous pouvez lire, mais on va lire à 18. Le 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. D'où venait ce grand vent du désert? D'où venait-il? Il suffit de lire le premier verset, où l'autre dit, tu me le donnes, n'est-ce pas? Tu me le laisses et tu verras, il te maudira en face. Ces vents qui viennent souffler dans nos maisons, il suffit de voir d'où ça vient. C'est lui! Ici, pour Job, le vent venait du désert. Hein? Donc, pour le serviteur, là, le vent venait du désert. Non, non, non. Nous avons la Bible, nous voyons d'où vient le vent. Hein? Le vent, verset 8, donc chapitre 1er toujours, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, hein, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Hein? Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Satan dit, c'est tout ce que je cherchais. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Vous voyez, c'est d'où venait le vent. On a parfois l'impression on a l'impression qu'en fait ça vient du désert, ou bien que ça vient de tel frère, ça vient de telle sœur. Non, c'est Satan. Quand une tempête souffle dans une assemblée, c'est Satan. Tu les as bénis, tu leur as donné une salle. Ils sont là, ils n'ont pas de loyer à payer. C'est chez eux, ils en veulent. C'est normal qu'ils te louent. Eh bien, va un peu balayer là-bas. Et il vient et il balaye. Et il secoue. Et les gens parlent. Amen. Dans cette assemblée-là, les gens meurent. Dans cette assemblée-là, les gens souffrent. Comme si dans les leurs, ça ne leur arrive pas. Mais tant que c'est la même parole, si ce sont les paroles de Christ, nous aurons tous les mêmes vents.
Amen.
Et gloire à Dieu, le vent a soufflé. Peut-être soufflera-t-il encore, mais on est toujours debout.
Amen.
Gloire à Dieu.
Amen.
Ah, et c'est là où je dis merci Seigneur. A frappé contre les quatre coins de la maison, elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Hein? Morts spirituellement et tout. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Oui. Mais regardez, verset 22, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il est resté debout, malgré le grand vent là. Alors, Jacques nous dit, il nous parle de la patience de Job. Vous savez, la patience vient quelques étapes plus loin après la foi. D'abord, il y a la foi, puis il y a la vertu, n'est-ce pas? Puis il y a la connaissance, hein? Et puis il y a la maîtrise de soi, et puis il y a la patience. Donc, quelqu'un qui est patient, il a la foi. Jacques 5, la patience envers Dieu, envers son frère. Jacques 5. Verset 10. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment.
Amen.
Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Nous nous en tenons à ça. Et la révélation de Jésus-Christ nous montre, et nous avons vu Jean nous dire, hein, grâce sur grâce. Et grâce et miséricorde, ce n'est pas grâce infinie. Vous savez, mais Dieu a effectivement la grâce infinie. Ça, je le crois. L'infinité de la grâce de Dieu, j'y crois.
Amen.
Vous y croyez?
Amen.
Amen, oui. Mais la doctrine de grâce infinie, je n'y crois pas. Ça veut dire quoi? La grâce infinie. Ça veut dire, faites ce que vous voulez, Dieu ne dira rien. Non, on ne vous demande pas de faire ce que vous voulez. On ne vous demande pas de marcher comme vous voulez. Non, il faut marcher selon, soyez digne de la vocation que vous avez reçue.
Amen.
Maintenant, l'infinité de la grâce fait quoi? Quel que soit le péché commis, si je me repens, Dieu me fait grâce. On n'est pas des catholiques pour dire, voilà, ça c'est un péché mortel, Dieu ne te pardonnera jamais. Non, non. Le bandit là à la croix, il a commis des crimes. Il parle de crimes. Jésus lui dit en deux phrases, dont ils ont échangé chacun une phrase. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui dit, en vérité, je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Là où l'homme ne lui a pas pardonné, Jésus-Christ lui pardonne. Ah, vous parlez de grâce infinie? Oui, monsieur. C'est ça la grâce infinie. La grâce infinie n'est pas, eh bien, continue, va aller tuer. Non, non, ça c'est pas grâce infinie. Amen. Amen. Comporte-toi comme un païen. Non, 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 ça c'est pas la grâce infinie. Quand il y a eu la femme adultère, tout le monde l'a condamnée, ils l'ont entraînée, la paf. Ouais. Voilà, Moïse a dit, toi qu'est-ce que tu dis? Jésus dit, attendez. Alors, il commence à écrire, c'est Jean 8 ça. Il écrit sur le sable. Ceux qui savaient lire commençaient à regarder ce qu'il écrivait. Après avoir lu, ils s'en vont, sans dire au revoir. Amen. Et puis finalement, Jésus lève le regard. Tiens, mais ils sont où? Ils sont partis. Maintenant, Jésus ne lui dit pas, va et continue. Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Amen. Là où les hommes ne lui ont pas fait grâce, Jésus-Christ lui a fait grâce.
Amen.
Amen. Oh, Dieu soit loué. C'est pourquoi si vous avez commis une bêtise, n'ayez pas peur de venir à l'Assemblée. Vous vous en fichez des regards des gens. Si vous êtes repentant, si vous savez que Christ est ici, à moins que Christ ne soit pas là. Si Christ n'est pas là, ne venez pas. Mais si Christ est là, venez. Que l'Assemblée tout entière vous condamne, c'est leur problème. Tant que Christ vous dira « je t'aime », vous serez heureux en partant. Et les gens vont encore, ils vont médire encore, sont eux qui vont pécher. En médisant, ils vont médire, voilà, il a commis ce regarde comment il part joyeux. Mais il part joyeux, Jésus l'a libéré. Amen. Il est léger.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Donc, on souffre. Patiemment, ah oui, Jean, chapitre 1er. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse. Moïse, Jésus dit, c'est Moïse qui vous accuse. Ah, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oh, combien je l'aime. Job, il avait sa patience, il connaissait l'Éternel. Il avait la révélation. Il connaissait l'Éternel, il savait que l'Éternel pouvait donner et pouvait reprendre. Il le savait. C'est une chose qu'il savait. Et quand la tempête a soufflé, comme dit le frère, il y a eu des tonnerres. La tempête, il y a eu des éclairs. Et il a vu l'Éternel sous un autre angle. Il a poussé un cri. Job, dans sa souffrance là. Job, chapitre 19. Job 19, verset 23. « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. » Quelle parole l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni, entre autres. « Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Quoi qu'il arrive, je le louerai toujours. » Même s'il m'envoie en enfer, je l'aimerai toujours. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. C'est un autre aspect de Dieu qu'il a vu. Dieu dit dans Ésaïe 43, 44, il dit, je suis ton rédempteur. C'est lui notre rédempteur. Et il s'est fait homme pour nous racheter. C'est pourquoi Job, il ne pécha point en tout cela. Passons. Paul est passé par de grosses tempêtes. Vous savez que Paul a fait 3 fois naufrage dans un bateau. Pas par rapport à la foi. Naufrage, de naufrager à cause d'une tempête. 3 fois. 2 Corinthiens 11. Verset 21, j'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Tout ce que quelqu'un peut oser, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Ah ouais? On est chrétiens? Moi aussi. Ils entendent quoi? Les paroles de Christ? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1 de fouet. Donc 39. 3 fois, j'ai été battu de verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Qu'est-ce qu'il a dû vivre? Paul fait pitié, mais dans toutes ces choses, Paul se proclame, il dit, je suis plus que vainqueur. Et il dit, en Christ, je triomphe toujours. Paul a connu un grand vent. Il a connu Héraclion. Vous connaissez Héraclion? Actes chapitre 27. Verset 14, mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Héraculon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Ça, c'est le découragement. Le chrétien, devant Héraculon, il reste ferme. Si vous allez à la dérive, vous savez ce qui va se passer. Le vent va vous amener. Vous savez d'où vient le vent, hein? On vient de le lire. Le vent va venir, va vous projeter sur un rocher. Paf, ça fait un coup. Et vous allez crier, aïe. Et puis, il va venir sans pitié. sur un autre rocher. Paf! Hein? Criez seulement au vent, ça va, c'est assez, le vent ne vous écoute pas, il va vous prendre. Paf! Sur tout rocher qu'il trouvera. Résistez. Ne vous laissez pas aller à la dérive. Satan n'a aucune pitié. Combattez.
Amen.
Avec une foi ferme. Alors, il dit ceci, verset 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Ah. Comme je dis toujours ça, c'est la repentance. Hein, désormais, Seigneur, je ne ferai plus ça. Hein, ça, c'est quand le vent arrive, hein, quand Héraclion arrive. C'est un sérum de vérité. Héraclion. Il vous fait admettre vos fautes. Amen. J'ai une fois vu une vidéo dans un avion en détresse, qui a failli crasher. On m'a envoyé cette vidéo-là. Mais l'avion n'a pas crashé, mais quelqu'un filmait à l'intérieur. Vous savez, dans l'avion, c'est là que tout le monde a commencé à prier. Amen. L'avion était encore dans les airs. Tout le monde a commencé à prier. Ils sont tous devenus croyants. Depuis le premier banc jusqu'au dernier là-bas, ils sont tous devenus croyants. Et quand par la grâce de Dieu, l'avion a atterri, oh, des gloires à Dieu! Ils ont applaudi, gloire à Dieu! Mais une fois sortis, ils ont oublié. Ils ont oublié. Et quand l'avion était ballotté là, je suis certain, c'était des turbulences. Je suis certain, il y en a qui ont dû faire le vœu, Seigneur, si je m'en sors, je te servirai tout le reste de ma vie. Et ce vœu-là, il a certainement oublié après avoir atterri. Amen. Gloire à Dieu. J'en connais une qui avait tellement mal. Hein, quand elle était petite, elle a dit, la télévision, c'est fini. Je ne regarderai plus. Tellement ça faisait mal. Amen. Gloire à Dieu. Pour les passer par toutes sortes de souffrances et d'humiliations. Mais, nous l'avons lu tout à l'heure, mais 2 Timothée 3. On avait lu dans 2 Timothée 4, mais dans 2 Timothée 3, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Ce n'était pas aujourd'hui sur le sommet, demain dans la vallée, non, il restait constant. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Il est passé par toutes sortes d'humiliations. À la fin de la course, il revendique sa couronne. Pourquoi? Parce qu'il en sort vainqueur. 4-7, nous l'avons lu. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que Paul était-il défait? Non, monsieur. Dans toutes ces difficultés, il était plus que vainqueur. Il avait l'assurance que ni les dominations, ni les autorités, ni quoi que ce soit de ce genre pouvait le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, Sauveur. Comment est-ce que Paul a tenu le coup? Parce que vous allez vous demander, mais moi, si je passe par où Paul, par où est passé Paul, j'ai bien peur que... C'est possible que vous ayez bien peur. Mais si vous avez eu ce roc de la révélation de qui est Jésus-Christ, vous alliez pas... Paul, son secret, il avait reçu la révélation de qui était Jésus-Christ. Galates, chapitre 1er. Vous voyez son secret?
Oui.
C'était ça son secret.
Amen.
Galates chapitre 1er, verset 13, ou plutôt verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme.
Amen.
Car je ne l'ai reçu, ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Ici, c'est Jésus-Christ qui lui a révélé l'évangile. Maintenant, écoutez, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma maison, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils. Vous voyez son secret? Il avait la révélation de qui était Jésus-Christ. De révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Vous savez, Paul est passé par des moments incroyables. Paul, il priait, il a prié, il voulait voir les Romains. Lisez ça dans chapitre aux Romains, chapitre 1er. Il dit, je fais d'abondantes prières parce que j'aimerais venir que l'on partage quelques vérités entre nous. Il priait et Dieu a exaucé sa prière. Mais quand Dieu a exaucé sa prière, Paul n'est pas parti à Rome dans un Airbus A320, non. Ni dans un Boeing 747 ou 737 non plus. Paul est parti à Rome dans un bateau, pas dans un bateau de croisière.
Non,
il était à fond de cale en tant que prisonnier. C'est Dieu qui exaucait sa prière. Paul, tu es sûr que c'est Dieu qui exauce ta prière? Il dit à Festus, j'en suis certain. J'aimerais bien que tu sois à ma place à l'exception de ces chaînes. Inébranlable. Il était bâti sur le roc. Que chacun de nous soit bâti sur le roc.
Amen.
Et il déclare lui-même aux Philippiens, vous savez, il a écrit l'épître aux Philippiens, il était en prison. Il déclare lui-même aux Philippiens, 3, il dit que la connaissance de Jésus-Christ, il l'avait excellente. Excellence de la connaissance. Chapitre 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Sa connaissance de Jésus-Christ était excellente. Que Jésus-Christ ne peut pas l'abandonner. Il pouvait être à fond de cale, il pouvait être en prison, il pouvait être n'importe où, dans quelque position que ce soit, dans quel état que ce soit, sa confiance n'était jamais ébranlée. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, ces choses-là, afin de gagner Christ. Il avait une connaissance excellente de Jésus-Christ. Paul, il dit aux Thessaloniciens, toutes ces choses qui vous arrivent, c'est vrai, ça fait mal, c'est affligeant, ça afflige, mais nous avons une espérance. Il les a consolés par ses paroles sur la résurrection. Pour lui, la résurrection était une certitude. comme on l'a dit, il a même défié la mort. Il dit au mort, où est ton aiguillon? Où est-il ton aiguillon?
Amen.
C'est pourquoi un chrétien, il reste calme. Si vous êtes dans un avion en pleine turbulence,
oui,
si ça doit arriver, que ça arrive. Si ça ne doit pas arriver, que ça n'arrive pas. Mais tout est entre les mains de Dieu.
Amen.
Vous savez que l'avion dans lequel vous êtes, s'il tombe, c'est que Dieu a voulu qu'il tombe. S'il ne tombe pas, c'est que Dieu a voulu qu'il ne tombe pas. Amen. Soyez sûrs de cela. Mais ne priez pas par peur. Restez calme. Restez confiant en Christ.
Amen.
Vous avez demandé que l'on prie pour votre voyage. Vous êtes confiant. Ce qui se passera, ce sera selon la volonté de Dieu. Amen.
Amen.
Et ce n'est pas une défaite du tout. Prions le Seigneur. Nous continuerons, Dieu voulant, mercredi. Donc aujourd'hui, nous parlons de cette révélation de qui est Jésus-Christ. Elle vous permet de passer victorieusement au travers des tempêtes. Elle vous permet de rester bien debout au travers de toutes ces choses. Elle vous maintient en bonne position. Vous ne perdez pas espoir. Remerciez Dieu pour tout ce qui arrive. Remerciez Dieu pour votre guérison. Mais non pas ma volonté, mais que la sienne soit faite. Prions. Père Céleste, nous te remercions ce soir pour cette parole où Jésus-Christ dit « Personne ne connaît le Père si le Fils ne lui révèle. Personne ne connaît le Fils si le Père ne lui révèle. » Aujourd'hui, si nous avons la grâce de le connaître, nous te demandons que notre connaissance de lui soit comme celle de Paul, excellente. Excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est cela que nous demandons ce soir. Lorsque nous aurons cette excellence de la connaissance de Jésus-Christ, nous saurons que nous sommes en présence de celui qui calme les vents, qui parle au vent et le vent se tait, qui parle à la mer et la mer se calme. Nous savons qu'il est celui qui tient toute la situation entre ses mains. Cela nous rassure. Il est notre abri dans la tempête. Que nous puissions avoir cette connaissance-là. Il est notre consolateur. Tel point que des gens comme Delilah ou les Philistins, ça les perturbe. Mais d'où vous vient cette grande force que vous avez devant les calamités, devant les difficultés? D'où cela vous vient-il? C'est notre force secrète. Jésus-Christ, Dieu vivant, manifesté dans la chair, est parmi nous ce matin, ressuscité d'entre les morts. C'est aussi celui qui intercède en notre faveur. C'est aussi celui qui nous a dit que nous pouvions prier en son nom. concernant nos besoins. Et lui relaiera nos besoins auprès du Père. Béni sois-tu. Accompagne tes enfants dans leur maison. Accompagne chacun. Si tu tardes à venir, nous nous attendons encore à toi pour la prédication et l'audition de la parole de Dieu. Au nom tout suffisant de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié ainsi. Amen.